Laissez faire votre clignotant. Entrez directement dans les guides de l'auto. Cube Radio.
Germain, dans une autre vie, j'ai déjà été vendeur automobile et je me souviens un peu de comment ça se passait. Je vendais une voiture la semaine, deux semaines plus tard, peut-être trois, tout dépendant du moment de la semaine, ben j'étais payé sur la vente que j'avais faite. Évidemment, avec ce qui se passe en ce moment, avec la pénurie, ça a énormément changé. La façon de vendre des véhicules a changé. Et on a décidé d'en parler avec quelqu'un qui vend des véhicules depuis un certain temps.
Et qui en a vendu quelques-uns,
dont une demi-douzaine à tes parents. on parle à François Gravel, qui est représentant chez Arbo Volkswagen à Laval, qui n'est pas là depuis 30 ans, mais qui vend des Volkswagen depuis 30 ans. C'est quand même pas rien. Salut, François.
Bonjour.
Bonjour messieurs, j'espère que vous allez bien. Puis là, je suis obligé de te corriger, ça va faire 32 ans avec Arbour le 9 juin qui s'en vient.
Ah, OK.
Et ça fait 39 ans avec Volkswagen. J'aime ça parce qu'avec vous deux, ça me permet de vieillir plus rapidement que la réalité quand je vous parle.
Ça fait un gâteau avec beaucoup de bougies, ça.
C'est ça.
Et Seigneur Jésus, là, excusez si j'ai pas pu vous rappeler avant parce que j'étais occupé avec ma marchette, là, et de la mettre dans le coin du bureau, là.
Bon. Mais la bonne nouvelle, c'est que Volkswagen fabrique maintenant de gros VUS pour être capable de trimballer tout ton équipement. N'est-ce pas?
Oui, Seigneur, oui, en effet.
Tu dois pleurer. Avant de parler de vente, là, on va parler de la Golf. Là. La pleures-tu encore?
Ça reste un sujet... les gens vont me trouver ridicule d'être émotif avec un automobile, mais la Golf, pour moi, aura toujours une place dans mon cœur qui est privilégiée. C'est mon véhicule fétiche, c'est la voiture qui a marqué mon imaginaire depuis que je suis dans l'automobile. Et quand j'ai livré la dernière, ça voulait une livraison que j'ai faite, la dernière voiture neuve Golf qui est partie de chez Arbo Automobile, je l'ai livrée à M. Chaillé, qui est un client à moi de très, très, très longue date. Et je m'étais promis de rester stoïque quand la voiture est partie, puis j'ai pas été capable de m'empêcher de pleurer. Je sais que ça peut paraître ridicule aux oreilles de vos auditeurs, mais pour moi, un Vaux, c'est ma vie. J'ai consacré ma vie à cette marque de voiture-là. Puis pour moi, cette journée-là, ça a été quand même assez spécial. Et quand il est sorti dans le cadrage de porte avec la porte électrique en arrière, il m'a vu, puis il a arrêté, puis il est sorti de l'auto en me demandant qu'est-ce qui se passait. J'avais l'air ridicule à 62 ans, mais que voulez-vous? Quand on vend de l'automobile, tu sais que tu en as déjà vendu,
ouais.
C'est de l'émotion. Et l'émotion, il n'y a rien de plus incontrôlable que ça. Puis moi, j'ai aucune gêne à le dire que quelque part, pour moi, c'est une disparition qui me fait cruellement mal encore. Puis j'espère qu'un jour, on pourra peut-être avoir un retour en force. Si les Américains peuvent décider d'adopter des véhicules un peu plus petits à un moment donné ou l'autre, on verra peut-être réapparaître des voitures d'un format que je pourrais qualifier de plus intelligent. Parce que c'est pas tout le monde qui a besoin d'un SUV, c'est pas vrai.
Non.
On force les gens à acheter ça, mais c'est pas forcément ce qu'ils veulent.
Sauf que là, je te console, François, en te disant ceci. Même si Volkswagen continuait à offrir la Golf au Canada, t'en aurais pas plus. Parce que la réalité du marché actuel, c'est que t'as pas de voiture, point à la ligne.
Et, oh, Seigneur, oui.
Et c'est la raison pour laquelle on veut te parler aujourd'hui. Parce que, évidemment, les clients commencent à être conscients qu'il faut magasiner un véhicule à l'avance, qu'il faut prévoir peut-être 6 mois, 1 an d'avance pour acheter certains véhicules, 2, 3 dans le cas de certains véhicules électriques, là, notamment votre ID4. Mais vendre un véhicule, quand on regarde ça du côté commercial, pour ceux qui travaillent dans l'industrie, vendre un véhicule, comment ça marche aujourd'hui? Parce qu'on ne peut plus avoir ce qu'on appelle dans le jargon un walk-in, lui livrer un véhicule durant la semaine et obtenir sa commission 2-3 semaines plus tard. Là, ça ne marche plus, ça. Là.
Ah, c'est fini. Des voitures en inventaire, on n'a plus de voitures comme telles en inventaire. Quand les gens voient des autos qu'on a stationnées dans la cour arrière, c'est des voitures qui sont en attente de prise de possession.
Oui.
Les manufacturiers, j'ai comme l'impression que l'ère qu'on a vécue où tu avais 200-300 véhicules en inventaire et qu'on pouvait choisir, je pense que c'est terminé. Je ne vois pas un retour à l'ancien métier que j'ai exercé pendant des années, celui que tu viens de décrire.
Ouais.
Je ne crois pas qu'on va le revivre de sitôt. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Puis oui, c'est compliqué parce que c'est des démarches. Il y a des gens qui ont besoin d'un véhicule immédiatement, des règlements d'assurance, des pertes totales. Des gens qui ont un nouvel emploi doivent changer de véhicule, se présentent en concession. Puis on essaie tant bien que mal de garder une approche positive avec le client. Mais quand quelqu'un vient te voir et qui te demande de faire un essai routier d'un Taos, par exemple, je suis pas capable, je n'ai pas de véhicule en inventaire pour lui faire essayer. Donc, on est obligé de vendre du papier. Et c'est là que ça se complexifie parce que les gens, de façon
naturelle,
veulent
toucher. Il n'y a rien de tangible.
Non, c'est ça. On vend de l'air, puis c'est rien de plaisant. Puis, je vous mentionnais que quelque part, je me sens, chaque fois que je vous parle, je me sens plus vieux. Mais il y a un petit côté de ma carrière que je suis vraiment content d'être sur le soleil couchant de ma carrière plutôt qu'au début. Parce que ce qu'on vit présentement pour les plus jeunes représentants, ouais, c'est pas évident. Puis je peux dire une chose, réussir à faire un salaire intéressant dans l'automobile présentement, ça relève du défi. Les prix, c'est le prix de détail suggéré du manufacturier, oui, mais c'est bien cute, mais les marges de profit, comme vous le savez, c'est pas extraordinaire. Là. Les voitures usagées, il n'y a pas de contrôle sur la valeur du prix du véhicule usagé. Et les gens font des gros achats dans l'usagé. Ouais. Mais dans le prix du neuf, tu t'en vas sur le site du manufacturier de ton choix, c'est le prix, point. Il n'y a pas de surenchère sur les véhicules neufs. À ce moment-là, non seulement le profit est contrôlé, mais en plus de ça, tu as une rareté qui vient s'ajouter. Donc, c'est loin d'être évident. Puis je regarde des collègues avec qui je partage mon showroom ici. Puis je suis obligé de vous avouer, messieurs, que quelque part, des fois, je me demande comment ils peuvent faire pour garder un moral d'enfer comme ils ont. Je suis très sincère avec vous deux, messieurs.
Est-ce que tu ne penses pas que entre l'ancienne vie de vendeur, comme tu l'as décrit, que tu as vécu, et la nouvelle, il n'y aurait pas un juste équilibre? C'est-à-dire que plutôt que d'avoir 300 voitures en inventaire, un concessionnaire pourra en avoir une quarantaine au maximum, mais à tout le moins avoir les véhicules physiquement sur le site pour pouvoir les montrer aux clients. Parce que on comprend qu'un concessionnaire automobile, d'avoir 300 véhicules en inventaire, c'est lourd financièrement de supporter un inventaire comme celui-là. Et comme les concessionnaires aujourd'hui...
Et ça met une pression aussi de sortir ces véhicules-là.
Oui, ça met une pression de les sortir. Mais aujourd'hui, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire que tu n'as pas d'inventaire à supporter, donc c'est beaucoup plus de profit pour le concessionnaire. Mais est-ce que... Parce que vous faites quand même un volume... pas aussi intéressant qu'à une certaine époque, mais quand même assez considérable, avec des ventes où il n'y a pas de négociation. Donc, au final, on comprend que l'argent qui est rentré en concession à la fin de l'année est pas mal semblable, voire même supérieur à celle que c'était en 2019, même si le modèle de travail a changé.
Je suis pas entièrement d'accord avec toi à cet effet-là, cher ami. Parce que techniquement, un véhicule de la concession de notre format, on devrait rouler aux alentours de 1200 à 1300 voitures annuellement. Puis présentement, on n'est pas convaincu qu'on va être capable de dépasser 600 unités. Donc, c'est plus complexe que vous le savez, parce que les hypothèques sur les bâtisses de tous les concessionnaires, les frais fixes n'ont pas changé. Les marges de profit, n'importe quel consommateur peut aller sur Car Cost Canada ou onagle.com pour avoir le prix coûtant du manufacturier. Oui. Je vous dirais qu'il n'y a rien de moins confidentiel maintenant, mais on est limité à ce qu'on peut faire avec le manufacturier en fonction du prix de détail suggéré. Et on réussit quand même à tirer notre épingle du jeu. Oui, je vous le concède, mais pour moi, normalement, un mois d'avril, par exemple, je devrais livrer 23, 24, 25 voitures, ce qui serait considéré comme un mois qui a bien de l'allure. Bien, là, je vais faire avec 7, 8, 9 autos, puis c'est moi qui ai le senior ici, puis je travaille avec une clientèle qui a vieilli avec moi, puis qui continue de me supporter. Je les appelle mes cavaliers, eux autres. Quand ça va pas bien, là, ma cavalerie rentre au poste, puis c'est eux autres qui sont là pour venir me donner le petit coup de main pour, justement, avoir un mois décent.
Mais c'est plus chez Chevrolet, les cavaliers, mais bon...
Oui, mais c'est ça, mais ça a fait un temps. Mais c'est pas évident, messieurs. Je te corrige là-dessus, je vous corrige tous les deux là-dessus. Oui, les marges bénéficiaires sont plus élevées, mais on parle pas de... Si, admettons qu'on prend par exemple, tu parlais de la Golf. Une Golf Trendline se vendait avec un profit maximum d'à peu près 1400 à 1500 $, ouais, dépendant si c'était un modèle Trendline ou un modèle Highline. Mettons qu'un modèle Highline, mettons 1700 $.
Ouais.
Mais 1700, tu es commissionnable sur une portion de ça. Oui, mais après ça, à l'époque, on donnait peut-être un 400-500 $ de rabais. Il restait 1200 dans la transaction. Ça te faisait une commission d'à peu près 250-300 $. Mais il fallait quand même que tu en mettes sur le chemin pour avoir un revenu intéressant. Puis il faut que tu fasses une relation aussi avec le nombre d'heures qui sont passées à prospecter, accueillir les gens, faire les démonstrations. C'est beaucoup de travail. Je te dirais que tu as l'impression que tu es dans une mine puis que tu casses du caillou, crois-moi.
Oh oui. Ben, c'est peut-être différent aussi chez d'autres manufacturiers qui ont plus de disponibilité de produits, là.
Oui, absolument. Bon. Je pense que les Coréens s'en tirent plus avantageusement.
Les Américains aussi, là, ça commence à revenir, là. On manque moins de pick-up qu'on en manquait, là. Ça, c'est sûr.
Oui, la raison est simple. Regarde le prix du carburant. Les gens commencent à avoir une certaine réticence.
Qu'est-ce que tu veux dire par là?
le prix du litre d'essence est un peu élevé, non?
Oui, c'est ça.
Mais,
c'est ça. Ben, messieurs, présentement, ce que je peux vous offrir rapidement, c'est un Atlas avec un moteur V6.
Oui,
sûr, parce que là, les gens ont une petite gêne là, à 2 $ passé le litre, là.
Oui, oui, le bassin d'acheteurs, c'est sûr qu'il se réduit. Comment on arrive à négocier et gérer avec un consommateur qui ne suit pas forcément l'actualité de l'industrie automobile et qui n'a pas forcément magasiné de véhicules dans les 2 dernières années, qui s'attend à repartir avec un véhicule sur le champ ou dans les jours suivants? Comment on arrive à gérer ça et à le convaincre que finalement, ben, c'est une bonne chose qu'il le commande à son goût et qu'il en prenne possession dans un an et demi, là?
Ben, ou même dans 3-4 mois, là.
Ou même dans 3-4 mois, 6 mois.
Ben, si on parle des véhicules normaux, essence, on est à peu près à ça, là, 2 à 3 mois, 4 mois, dépendant, par exemple, les modèles plus rares. Si on parle de la voiture ID4, comme vous le savez, ça, c'est une autre histoire.
Mais ça, c'est un cas unique, là, ouais.
Ça, c'est un cas particulier. Pardon. Les consommateurs, je vous dirais qu'ils sont particulièrement très informés. Les gens le savent que la situation est hors norme. Sur 10 consommateurs qu'on va rencontrer, il y en a peut-être un que tu es obligé vraiment d'amener à vraiment saisir et comprendre la dynamique de ce qui se passe. Il y a peut-être là-dessus une partie des gens qui réagissent très mal. Il y a des gens qui n'acceptent pas cette situation-là parce qu'ils se sentent piégés, ils se sentent victimes parce qu'ils ont un sentiment d'abus de la part des concessionnaires à leur égard. Puis je peux comprendre leur sentiment en passant, là. Tu sais, cette gestion-là, ça devient de la gestion de l'humain beaucoup plus que de la gestion du produit et de la vente. C'est qu'à un moment donné, il y a un élément essentiel dans une transaction automobile qui s'appelle l'empathie. Parce que tu as besoin de comprendre comment ton client se sent devant toi pour être capable de l'aider, mais l'aider aussi à accepter une situation qui, pour lui, est hors norme. Mais elle l'est aussi pour norme. Puis je pense que la clientèle étant très informée, les médias sociaux peuvent nuire autant qu'aider, mais dans ce cas-là, les gens savent que quelque part, la situation est hors norme. C'est complexe parce que tu dois être capable de créer le lien affectif avec le client pour l'amener à comprendre ta situation. Puis après ça, ben, on continue avec la transparence. La transparence, d'ailleurs, oui, avec les clients devient cruciale parce que les gens sont très informés et tu te dois de leur donner leur juste parce qu'ils ont beaucoup de facilité aussi à aller contre-vérifier ce que toi te dis par rapport à la réalité commerciale du marché.
François, j'ai envie de t'entendre sur la notion des taux d'intérêt parce que ils ont considérablement monté dans les derniers mois et on peut s'imaginer qu'un client qui s'est commandé une Volkswagen GTI, par exemple, de 8e génération, qu'il aurait commandé un peu avant Noël l'année dernière, à l'automne, n'en aurait toujours pas pris possession. À ce moment-là, les taux étaient à 1%, 1,9%. Maintenant, ça n'a rien à voir avec ça. On est à 4,9, 5,9 et plus dans d'autres cas. Comment on arrive à faire accepter ça aux clients?
C'est l'aspect que je vous mentionnais il y a quelques minutes où les gens se sentent abusés. C'est malheureux, mais la seule façon de présenter ça au client, c'est de lui dire « voici, c'est la situation auquel on fait face présentement et on n'a pas le choix ». On vérifie beaucoup aussi avec, comme les taux des manufacturiers ont augmenté, on vérifie aussi avec les taux bancaires. Avant, quand on finançait en général tout le temps avec avec notre manufacturier. Mais maintenant, on va aller magasiner pour le client les taux bancaires avec les différentes institutions. C'est pas simple. Le point que tu soulèves, Germain, c'est là où ça fait très mal. Parce que les véhicules, des véhicules à 250-300 $ par mois, ça n'existe plus. On commence maintenant avec une Jetta. On approche en location, par exemple, une Jetta. Excusez, je vais parler de mon produit parce que c'est ce que je peux vous parler avec expertise. Mais on va être aux alentours de 475 $ par mois. Il y a 5 ans, je louais des Jetta à 280 par mois. Ces clients-là, on les perd souvent parce que ils sont habitués à une enveloppe budgétaire X, puis après ça, ils viennent ici, puis c'est X plus, plus, plus. On a un exode. On vit définitivement un exode de la clientèle qui est causé par les taux d'intérêt. Là, les gens vont se rabattre sur des voitures usagées en se disant, mais ça va coûter moins cher, mais le marché de la voiture usagée présentement est effervescent. Puis ces gens-là vont acheter un véhicule peut-être de 2 ou 3 ans qui est moins dispendieux avec un taux d'intérêt qui est le même, mais leur mensualité est plus basse. Donc, dans leur optique, ils payent moins cher. Mais moi, je pense que c'est une douleur qui est reportée parce que si tu as acheté un véhicule au-delà du prix du marché normal dans l'usager et que tu viens me la redonner en échange dans 3 ou 4 ans, on va faire face à une deuxième crise de l'automobile dans un horizon de 3, 4 ou 5 ans gros maximum. Quand ces voitures-là vont avoir vieilli un petit peu et que les gens vont vouloir les changer, on va espérer que les taux d'intérêt se soient stabilisés puis que la situation du marché soit revenue un peu à la normale avec des promotions dans le neuf. Parce que je peux vous dire, messieurs, ça va cogner dur et solide.
Puis tu me parles de véhicules usagés, je trouve ça intéressant parce que moi, j'ai eu plusieurs cas dans ma boîte de courriel ou sur ma page Facebook de gens qui m'ont écrit en me disant « Je suis rentré chez un concessionnaire, j'ai voulu m'acheter un véhicule et on m'a refusé l'achat d'un véhicule sauf si je donnais mon véhicule en échange. » Autrement dit, le marchand a tellement plus d'inventaire à offrir à sa clientèle que ce qu'on veut, c'est faire une transaction 2 pour 1. Vendre un véhicule, oui, mais en racheter un en même temps pour pouvoir le revendre le lendemain.
Donc, on choisit en quelque sorte nos clients.
Exactement. Et ça, j'ai reçu plusieurs commentaires à cet effet-là. Comment est-ce que tu vois ça?
Je trouve ça absurde. Si tu veux te faire un ennemi d'un client, ça, c'est une belle façon. Ça, là, c'est génial. Les compagnies, présentement, sont rendues que, admettons que moi, j'appelle chez BMW, chez Mercedes, chez Audi, peu importe, et que je veux racheter une location d'un de mes clients, on peut se faire refuser la vente parce que le premier privilège de rachat sur un contrat de location, c'est le consommateur, mais après c'est le manufacturier, le véhicule leur appartient. C'est une situation qui va faire, encore une fois, beaucoup de désagréments. Personnellement, j'approuve pas ça. Je trouve ça pas correct. À un moment donné, ça fait notre affaire, mais là, il ne faut pas que ça fasse trop l'affaire du consommateur. Mais là, quand nous autres, c'est à l'envers et qu'on a besoin du coup de main du consommateur, soudainement, on est généreux, ça n'a pas de borne. Mais après ça, la situation vient de changer de main. Peut-être que les gens qui vont m'écouter, qui sont dans l'automobile, voudraient me faire taire parce qu'ils ont dit ça. Mais moi, je pense que, avant toute chose, c'est le client qui est important. Si c'est pas le client qui est important, c'est juste ta poche, je pense que tu passes à côté. Personnellement, moi, je vais parler en mon nom personnel, là, je parlerai pas au nom de l'industrie. Moi, je trouve que c'est pas une méthode de transaction, c'est pas une méthode transactionnelle qui est valorisante pour personne. Ça fait un temps, mais ça va faire des mécontents. Puis un client insatisfait, puis un client qui a été abusé, il va s'en rappeler, je vous le garantis.
Ah ben oui, c'est ça.
Puis il y a des consommateurs qui vont trouver des façons à un moment donné de faire comprendre à leur concessionnaire que c'était pas une bonne idée d'abuser de leur gentillesse et de leur confiance. Moi, je suis pas d'accord avec ça, mais j'en ai entendu parler ce que tu me dis. Je trouve ça particulièrement raide. Je sais qu'il y a des manufacturiers qui, à l'intérieur de 3 mois de la fin du bail, vont refuser de revendre le véhicule. Leur véhicule okay. leur appartient. Puis ça, c'est des politiques de compagnie qui commencent à prendre effet là, dans la plupart des manufacturiers. C'est un privilège qu'ils ont. Puis ils ont été conciliants pendant des années, mais là, ils ont décidé peut-être d'être un petit affaire plus raide maintenant.
Oui, parce que le rachat d'un bail de location pour un consommateur, ça demeure en ce moment l'aubaine du siècle, là.
Parce que la valeur résiduelle établie il y a 3 ans ou 4 ans...
n'a rien à voir avec la réalité d'aujourd'hui.
Ben oui.
Ben regardez, messieurs, je vous donne un exemple. Volkswagen Beetle June. On vendait une 2019 Beetle June à 34 600. On donnait peut-être un 500 $ de rabais. Faisons un chiffron à 34 000. Si vous allez sur les différents sites, en particulier en Ontario, j'en ai vu annoncer à 43 500.
Ben voyons donc.
Okay. Elles sont usagées de 3-4 ans, là.
Ils ont 3 ans d'âge et des kilométrages de 21, 22, 23 000 kilomètres, puis que les voitures sont annoncées à 43 000. Mais le drame, messieurs, c'est qu'il y a quelqu'un qui va l'acheter.
Oui. Oui. Qui va juger que ce prix-là est juste.
Écoute, on peut te donner un parallèle. Un parallèle que je faisais cette semaine. Une Toyota Yaris 2019 qui a été payée neuve 16 000 $ en 2019, 16-17 000 $ hatchback automatique, rien de compliqué, là, pas d'équipement particulier. Elle se vend dans l'usager en ce moment avec 40 000 km, 21-22
000. Je t'écoute.
C'est ça le marché.
C'est malgré mon âge avancé, là, je comprends encore tout ça. Là. Ça va être un cruel réveil. C'est ça que je vous dis. Que quelque part, ces voitures-là qui sont achetées à gros prix, à un moment donné, ça va générer ce que les gens détestent le plus dans l'automobile, c'est les fameux ballons de financement.
Ouais.
Je dois 10 000 sur mon auto, vous m'offrez 5, prenez le 5, venez le placer dans mon financement. Soudainement, ben là, je suis capable de faire une transaction, mais je paye mon véhicule nettement trop cher.
Ben ouais.
Mais quand moi, tu me le ramènes, puis que là, je suis obligé de te parler d'un ballon, ben ça tient plus debout. Là. Je pense que quelque part, le réveil va être cruel dans l'automobile. C'est ça que je crains. C'est pas la situation présente que je trouve qui est la plus complexe. C'est la situation qui va résulter de celle que nous vivons présentement,
ben ouais.
qui, à mon avis, va venir peut-être rendre le marché de l'automobile plus complexe et plus difficile, puis ça va rendre la vie plus compliquée aux gens pour s'acheter un automobile, parce que ces valeurs enflées-là, ça peut pas tenir debout. Il y a un élastique présentement qui va nous éclater au visage dans quelques temps, puis ça va faire mal, messieurs. Ouais.
Antoine mentionnait en introduction que lorsqu'on vend un véhicule neuf, en fait, lorsqu'on livre un véhicule neuf, on est payé comme représentant aux ventes dans les semaines subséquentes. Là, quand on vend un véhicule au printemps 2022, qu'on va livrer au printemps 2023, par exemple, on est payé au printemps 2023, donc au moment de la livraison, sachant qu'il y avait une certaine forme de volatilité dans dans le métier de représentant des ventes, donc un individu va se promener d'une concession à l'autre en espérant peut-être améliorer son sort, mais aujourd'hui, il se retrouve un peu coincé.
Tu n'as pas de revenus. Oui, parce que... Puis ça, c'est dans la mesure où tous les gens à qui tu as vendu à l'avance comme ça persistent et attendent leur véhicule. Parce que nous autres, dans les voitures ID4 qu'on a déjà vendues, des GTI, des Golf R, j'en ai 35 ou 36 de pré-vendus. À l'heure actuelle, on en a livré un total de 6 à date sur 36. Puis j'ai appelé deux de mes clients cette semaine pour leur dire que leur véhicule était maintenant passé au stade de pré-production. Donc, elles ont été acceptées par l'usine. Mais moi, je suis pas commissionné là-dessus tant aussi longtemps que le véhicule, en bon français, brûle pas du gaz.
Ouais.
Donc, c'est des ventes qui sont faites dans le vent. puis après ça, à un moment donné, elles finissent par se concrétiser. Et ça, c'est dans la mesure où ton client ne cancelle pas. Parce que les ID4 qui sont vendus à l'avance comme ça, un an et demi à deux ans à l'avance, on a un taux de cancellation qui est quand même assez élevé parce que les gens, à un moment donné, finissent par se décourager. Puis ça, c'est quand ils n'ont pas l'occasion d'acheter un produit dans une autre marque. Donc,
oui, parce que les gens achètent ce qu'ils peuvent, pas ce qu'ils veulent. T'sais, en ce moment, c'est ça la vérité. Si tu veux un véhicule électrique, tu te fais livrer ce que tu peux avoir, pas ce que tu veux nécessairement.
D'où ce que je vous mentionnais tout à l'heure, messieurs, au niveau de l'empathie. Si tu es obligé d'imposer quelque chose à un client, aie au moins la décence de le faire avec politesse, gentillesse, puis être sympathique. Parce qu'à un moment donné, tu peux pas dire au client, « Ah, ben moi, j'aimerais ça l'avoir blanc avec le toit ouvrant. » Non, il va être rouge, monsieur, pas de toit ouvrant. Ça se dit pas. Ben, quand tu es rendu à payer un montant d'argent comme ça, ça se peut-tu que tu aies envie d'avoir ce que tu veux? C'est sûr et certain que, tu sais, tu t'en vas dans un restaurant, tu commandes un plat quelconque, mais tu vas payer 22, 23, 25, 30 $ ton assiette. Ben, tu t'attends à ce que ça soit ce que tu veux manger et non pas ce que le chef a décidé à ta place.
Ouais.
Mais là, on parle de voiture à 25, 30, 40, 50, 60 000 $ et que tu vas te faire imposer un véhicule et un comportement. Seigneur, que je suis pas d'accord avec ça.
Ah ouais.
Donc, si t'as à faire un move comme ça, excusez l'expression anglaise, d'imposer à un client, offre-lui des alternatives. Voici ce que je peux vous offrir. C'est le mieux que je puisse faire. Est-ce que quelque part, il y a moyen de trouver un terrain d'entente là-dessus? Puis le pire, c'est que le terrain d'entente ne sera pas un terrain d'entente financier. Parce que c'est vraiment de trouver un véhicule qui est un peu comme le soulier de verre à Cendrillon. Tu essaies de trouver le bon, puis en espérant que le consommateur va apprécier. Mais on en perd beaucoup. On en perd beaucoup plus que vous pouvez vous imaginer.
Merci beaucoup, François, d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. On va espérer que tu vas avoir un peu de walk-in aujourd'hui puis que tu puisses être capable de livrer des véhicules dans un temps raisonnable parce qu'on sait qu'actuellement, c'est ce qu'il y a de plus difficile et c'est ce qui fait en sorte que le métier est peut-être un peu moins agréable qu'à une certaine époque. Merci de nous avoir parlé aujourd'hui, François.
Bien, j'apprécie votre invitation. C'est très gentil. Puis pour juste renchérir sur ce que tu viens de dire, je viens de livrer un GTI Autobahn automatique il y a quelques minutes à M. Vincent. Ça a été commandé au mois de juin 2021. Et j'ai M. Yvon Laplante, qui est un client à moi de très, très longue date, qui vient chercher son GTI manuel à 3h cet après-midi. Ça a été commandé au mois d'avril l'an passé.
Wow, donc, des gens patients.
Quand tu demandes la patience des gens, je peux te dire que quelque part, en bon français, tu dois filer doux. Messieurs, ça fait un gros câlin et je vous remercie énormément.
Merci beaucoup, François. À bientôt.
À bientôt.